Alors, bien, nous allons continuer à voyager avec Fabien Bastide, voyager avec la Deux Chevaux Vagabonde. D'ailleurs, c'est elle qui a droit, qui a les honneurs du titre.
Ah oui, le titre du livre, La Deux Chevaux Vagabonde, je pense que c'est une façon de quelque part la remercier, parce qu'on l'a pas beaucoup remercié pendant le voyage. Donc, c'est à titre post-aventure, c'est vrai qu'elle le mérite quand même.
Elle a fait un sacré voyage. Combien de kilomètres à peu près, vous avez calculé?
On a fait 35 000 kilomètres, grosso modo.
Presque un tour de la Terre.
Presque un tour de la Terre.
À l'équateur.
Oui.
Parce qu'à dessous de nos latitudes, ça y est, vous l'avez dépassé le tour même. Alors, un petit peu, on va continuer avec cette notion de un petit peu de cette entrée, comme ça, si ça vous convient, de mots un petit peu clés. Je me disais, la question des températures, parce que de chevaux, le chauffage, c'est pas terrible. Hein. Et vous l'avez assez durement éprouvé, notamment... du côté de l'Anatolie.
Tout à fait, ouais.
Hein, vous avez eu des froids qu'on n'imagine pas pour des régions comme ça, quoi.
Non, alors en Anatolie, les hivers sont rudes, c'est nos autorités publiques. Par contre, on a eu la malchance de tomber sur un hiver particulièrement rude, particulièrement dur. On a eu moins 30, moins 35 degrés. Et évidemment, on n'était pas du tout préparé à ça, ni équipé pour ça. Mais encore, une fois de plus, j'ai envie de dire, les rencontres nous ont permis de nous équiper un petit peu pour affronter ces températures-là. Il nous est arrivé pas mal de péripéties parce que les routes ont été coupées. Ce sont des températures qui n'avaient pas été vues là-bas depuis une cinquantaine d'années. Donc même les locaux ne bougeaient plus de chez eux. Et nous, on était au milieu de cette grande plaine anatolienne sur la glace. Donc sans chaîne, sans rien. Donc on s'est adapté, on a rafistolé des chaînes avec des bouts de porte-clés, on a tout essayé.
Oui, puis vous racontez des chaînes qui cassaient parce que c'était pas de la neige, c'était de la glace.
De la glace,
c'était les chaînes sur la glace.
Exactement. Donc
c'est pas très efficace.
On a essayé pour dire qu'on n'a pas baissé les bras, mais il y avait peu de chances qu'on s'en sorte sans émotion et sans quelques coups de frayeur aussi.
D'accord. Oui, vous n'aviez pas d'assistance technique. Hein, comme
ah non.
Alors, bah justement, réparation, voilà un terme qui a... réparation, bricolage, faut être bricoleur pour voyager.
Oui, bricoleur,
Dans ces conditions, en tout cas.
Il faut être bricoleur, mais pas forcément mécanicien. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de mérite du côté de la mécanique. Parce que la plupart du temps, quand on s'arrêtait, que ce soit pour des questions de problèmes mécaniques ou tout simplement parce qu'on voulait justement faire une pause, on avait une dizaine de personnes qui s'agglutinaient autour de nous pour trouver un prétexte pour ouvrir le capot et essayer de réparer, même si rien ne clochait dans la mécanique. On avait toujours des appuis techniques et souvent par des gens qui en connaissaient un rayon dans ce domaine-là, beaucoup plus que nous et qui étaient encore plus bricoleurs. Et donc grâce à ça, on a pu avancer au fur et à mesure. On n'a jamais eu de casse. On a eu beaucoup de réparations à faire. Mais c'était toujours avec l'aide de gens qui se retrouvaient sur le bord du chemin et avec qui on a passé des moments assez extraordinaires, il faut le dire.
D'accord. Alors là, on entend voyage dans des paysages extraordinaires, avec des rencontres, avec des paysages parfois très banals, voire sordides, mais des rencontres quand même. Mais ça m'a frappé, surtout au début du livre. Je me suis dit, mais c'est aussi un voyage dans les livres.
Ah oui. Bah, moi, j'ai commencé à voyager. D'abord, avant de voyager physiquement, j'ai voyagé dans les livres. Puis les livres m'ont accompagné sur mes premiers grands voyages. Et depuis, y a toujours un fil conducteur littéraire sur mes déplacements parce que soit je pars sur des destinations qui m'inspirent via des grands écrivains soit plus ou moins contemporains ou classiques. Mais en tout cas, le livre est pour moi un fil conducteur. Et là, effectivement, ça a été un mélange entre Guy de la Rigaudie et surtout Nicolas Bouvier qui a été... Qui a fait cette route bien avant nous, 50 ans avant nous, et dont l'usage du monde a toujours été sur ma table de chevet depuis que je suis ado. Donc forcément, c'est... Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres petites pensées littéraires dans ce livre-là, parce que c'est vrai que... Parce que c'est inspirant, et je pense qu'on est toujours... dans les traces de quelqu'un.
Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres voyageurs qui ont commencé par les livres. Hein. Alors là, on évoque Nicolas Bouvier, mais ça peut être Alexandra Davenil, ça peut être Elsa Maillard, ça peut être Bernard Moitessier pour ceux qui sont des amoureux de la mer. Comment, quel conseil vous donneriez, vous, voyageur chevronné, si je puis dire, à des jeunes qui seraient, comme vous l'avez été à une époque, seraient avec des voyages plein la tête, plein les rêves?
Je pense que le principal conseil, si je pouvais donner conseil, ça serait de trouver l'équilibre entre écouter ce que les gens vous disent avant de partir et pas trop les écouter non plus. Parce qu'en fait, si à la fois il faut s'intéresser au contexte, surtout actuellement, dans un contexte de monde qui bouge très vite, et Dieu sait que on est dans le cœur du sujet en ce moment. Donc savoir un petit peu quand même ce qui se passe, la capacité à aller d'un point A à un point B, et surtout en termes de sécuritaire et tout ça, parce que c'est quand même ça dont il s'agit. Mais donc s'intéresser à ça, ne pas partir la fleur au fusil sans trop se poser de questions. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus trop écouter les mauvaises langues qui disent que ce n'est pas possible. En fait, tout est toujours possible à condition de garder les pieds sur terre et de ne pas se fourrer dans des mauvaises situations bêtement. Et surtout, en fait, moi je pense qu'il y a quand même y a une chance quand on voyage, c'est qu'encore une fois, on rencontre normalement, à part dans les grandes zones désertiques, mais normalement il y a quand même toujours du monde. Et c'est ces personnes-là qu'on rencontre au fil du chemin qui sont les meilleurs conseils. Donc c'est eux qui vont pouvoir nous dire, là n'y allez pas, là allez-y, ah là allez-y, mais allez voir telle personne que je vous recommande qui pourra vous donner des meilleures, des informations plus précises et plus actuelles. Donc en gros, être à l'écoute. Tout le reste, à partir du moment où on a la santé et la chance d'avoir un passeport qui puisse nous permettre de traverser quelques frontières, quel que soit le moyen de transport et la destination, je pense que tout est plus ou moins possible. Voilà, mais juste peut-être se renseigner un peu avant de partir, et avoir cette folie et de partir dans tous les cas.
Donc voyage, un monde de possibles, hein, voilà, et de découvertes. Mais merci beaucoup Fabien Bastide. Des prochaines destinations pour vous, il y a déjà des choses qui se profilent?
Oui, alors il y a des voyages avec mes enfants au Québec, là bientôt, puis un grand voyage de un an, un peu plus peut-être, au Laos, retour au Laos en famille. Et puis tout un tas de petits voyages de marche à travers les sommets européens et bon, d'accord. Tout un tas de choses.
On peut voyager aussi à côté de chez soi.
Tout à fait.
Pas obligé d'aller de l'autre côté de la planète. Merci beaucoup. Donc on rappelle la Deux Chevaux Vagabondes, qui est sortie avec sous-titre De la France au Laos. Bon ben voilà. C'est chez Transboréal. C'est paru à l'automne dernier. Et je vous recommande la voiture. La lecture. Ça arrive,
la voiture aussi. Hein.
Et la voiture aussi, voilà. Vous ferez un beau voyage. Moi, je n'ai pas encore fini. Je suis encore en Inde pour l'instant. Je continue le voyage. Merci beaucoup, Fabien Bastide.
Merci beaucoup.
Et puis, un prochain retour de voyage.
Avec grand plaisir.